Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, nous avons la table du Seigneur, donc nous allons méditer à quelques versets, le passage que nous avons l'habitude de prendre, et nous allons méditer sur ce passage. Je vous demande de vous prendre dans votre Bible la première épître de Corinthiens, chapitre 11. Nous allons lire quelques versets. Premier épître de Corinthiens, aux Corinthiens, chapitre 11, on va lire à partir de verset 23 jusqu'à verset 26. 23 à 26. En Corinthiens 11, 23 à 26. Car j'ai reçu du Seigneur ce que vous ai enseigné, ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Nous avons devant nous un texte ce matin que nous aurions entendu et lu un grand nombre de fois dans notre vie. Et il en est ainsi à juste titre parce qu'il parle de se souvenir de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Car c'est le commandement de notre Seigneur même que nous devons nous souvenir de lui aussi souvent que possible. Ce n'est pas possible que nous nous rassemblions ici, dans ce lieu, sans avoir pensé ce que le Seigneur il a fait pour nous. Ce récit de l'institution de la table du Seigneur continue dans ce contexte est le plus ancien récit existant de cet événement. Il date bien avant les évangiles et monte probablement environ 25 ans juste après la crucifixion de notre Seigneur. Cela présuppose un récit antérieur qui avait été livré oralement aux Corinthiens. Et comme dit l'apôtre Paul, a été délivré par lui, du Christ lui-même. Il est destiné à corriger les corruptions ou des erreurs dans l'administration et l'observation du rite qui ont dû prendre un certain temps à se développer. Nous voyons que quand l'apôtre Paul l'écrit, il dit que ce que je vous ai enseigné, donc il y a un enseignement déjà sur ce sujet. Et donc, et ainsi nous sommes ramenés à une période très proche de la première institution du rite par les paroles qui sont présentées. Et donc, sans doute que quelques années après la mort de notre Seigneur, tout le peuple chrétien, l'Église primitive, croyait que Jésus-Christ lui-même avait ordonné à observer ce rite, la table du Seigneur. Avant d'aller plus loin, posons cette question. Qu'est-ce qu'un rite? Dans la religion aujourd'hui, où nous trouvons beaucoup de rites, dans les églises, nous trouvons beaucoup de rites. Qu'est-ce qu'un rite? Nous qui avons quitté les autres religions pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, parfois cela pourrait être la religion chrétienne même. Devons-nous suivre des rites? Parce que toutes les religions de ce monde sont remplies de rituels et de traditions à suivre minutieusement. J'ai regardé dans le dictionnaire Robert. Donc, selon le dictionnaire, ce sont ensemble des cérémonies en usage dans une communauté religieuse, organisation traditionnelle de ces cérémonies, cérémonies réglées ou gestes particuliers prescrits par la liturgie d'une religion. Mais Jésus, pendant qu'il était sur cette terre, n'a-t-il pas brisé les traditions, les coutumes, les rites qui ont été suivis par les Juifs Nous savons que les Juifs eux-mêmes, ils ont accusé Jésus d'avoir fait cela. Pourquoi tu ne suis pas les rites et les traditions de nos pères? Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15, nous lisons ainsi, je vais lire pour vous, Matthieu, chapitre 15, le 9 premier verset. Alors des pharisiens, ils scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ?» Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent le repas. Jésus leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de vos traditions? Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements des hommes. » Donc, Jésus, il a brisé volontairement des rites et les traditions des ancêtres, des pères. Et si on trouve les rites dans les églises, nous devrions poser la question, pourquoi nous faisons telle chose d'une cette manière. Est-ce que nous suivons une certaine rite? Jésus-Christ qui se souciait très peu de rites, qui en est venu en établir un chemin singulièrement indépendant de toute forme extérieure, a institué seulement deux choses pour que ses disciples suivent. L'un d'eux devait être une foi dans une vie chrétienne. L'autre devrait être répété avec une fréquence indéfinie et semble-t-il d'abord répété quotidiennement par les premiers croyants. Et en Actes, chapitre 2, verset 46-47, nous lisons ainsi, « Il était le premier disciple, il était chaque jour tous ensemble assidus au temple. » Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité du cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. C'était leur façon de vivre leur vie chrétienne. La raison pour laquelle ces deux ordonnances, nous avons aujourd'hui deux choses ici. On a la table du Seigneur et aussi le baptistère. La raison pour laquelle ces deux ordonnances et seulement ces deux-là ont été prescrites par Jésus-Christ était que, prises ensemble, elles couvrent tout le terrain de faits révélés et elles couvrent aussi tout le terrain de l'expérience chrétienne. Il n'y a pas de place pour d'autres rites parce que ces deux-là, le rite d'initiation, qui est le baptême, et le rite de commémoration, qui est la table du Seigneur, disent tout sur notre foi chrétienne comme révélation et sur la foi chrétienne comme une expérience vivante. Tous les autres rites et traditions, même s'ils tiennent la croix au-dessus, sont créés par l'homme et nous feraient tomber dans le péché de l'idolâtrie. Avez-vous déjà entendu parler de Nehushtan? Nehushtan, c'est un mot étrange. Entre Moïse et Ézéchias, les Israélites commencèrent à adorer le serpent ardent. Vous vous rappelez le serpent ardent que Moïse avait fait de bronze? Il n'est mentionné qu'en relation avec les réformes d'Ézéchias, mais le culte de Nehushtan aurait pu avoir lieu bien avant Ézéchias. Alors qu'il est compréhensible qu'un objet qui a apporté une guérison miraculeuse puisse devenir un objet de culte, même aujourd'hui dans la pharmacie, dans le lieu médical, hein, dans le milieu médical, nous pouvons trouver ce symbole d'un serpent hein, avec une coupe. On peut demander de où ça vient. Le serpent de bronze était la méthode de délivrance de Dieu lors de l'incident enregistré dans le livre de Nombre 21. Jésus mentionnait le serpent d'airain dans Jean 3, 14. Et quand Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jésus fait référence à cet incident qui se trouve à Nombre 21. Tout comme quiconque a été mordu par un serpent pouvait être guéri en regardant le serpent des reins que Moïse a élevé sur une perche, de même n'importe qui peut se tourner vers Jésus qui a été élevé sur la croix pour être spirituellement guéri, délivré et sauvé. Ce Neustan devrait être un puissant rappel pour nous tous, que même les bonnes choses et les bonnes personnes peuvent devenir des idoles dans nos vies. Notre louange, notre adoration doivent être dirigées vers Dieu seul. Rien d'autre n'est digne. Bien que nous lisions toujours ce passage chaque fois que nous nous réunissons autour de la table du Seigneur, nous ne prenons pas le temps de méditer profondément sur ce passage qui est très important pour notre foi. Et ça est devenu parfois un rituel de lire ce passage juste avant de participer dans la table. Je ne sais pas combien de temps on a lu séparément pour savoir qu'est-ce que ce passage veut nous dire. La table du Seigneur elle-même est un sermon silencieux et bien meilleur que tout autre sermon. Mais en même temps, nous devrions prendre le temps de comprendre le sens profond de ce passage et de ce message. Et ce matin, nous allons prendre ces quelques minutes avant même de participer dans la table du Seigneur. Donc, nous sommes à 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 26. Donc, le passage commence ainsi. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Nous savons que l'apôtre Paul n'était pas parmi les 12 cette nuit-là où le Seigneur Jésus a célébré son dernier repas avec ses disciples. Il n'était pas parmi les 12. L'apôtre Paul, il vient plus tard. Mais il affirme la révélation spéciale qu'il a reçue directement du Seigneur à ce sujet. Quand l'apôtre Paul a enseigné aux Corinthiens, beaucoup parmi les 12 étaient encore vivants, n'est-ce pas? Qui étaient avec le Seigneur, qui auraient pu contredire s'il n'avait pas été ainsi. Si Paul il était en train de créer quelque chose de nouveau, les autres disciples de Jésus l'auraient pu dire que non, ce n'est pas du tout passé ainsi. Car ils étaient tous vivants quand Paul l'enseignait. Et Paul il dit, car je suis du Seigneur ce que vous ai enseigné. Notez ici que l'apôtre Paul ne se contente pas de raconter une histoire de ce qui s'est passé cette nuit-là, lorsque le Seigneur a été trahi, mais il enseigne aux chrétiens de Corinthe sur le sujet. Ce n'est pas simplement un récit. Mais il est en train d'enseigner ce que la table du Seigneur. Et la phrase après qu'on devrait noter, ça, dans la nuit où il fut livré, pris du pain. Et qu'est-ce que ça veut dire? À l'heure même où l'on se préparait à l'attraper pour être livré à ses ennemis, quand celui qui va le trahir est assis à la table avec lui comme un parmi ses disciples, quand Satan et ses hordes des anges étaient dans une rage triomphante, voulant détruire la postérité de la femme, le Fils de Dieu, cette nuit-là, Jésus a rassemblé ses disciples bien-aimés à table, y compris Judas, pour démontrer que son corps saint serait brisé comme le pain qu'il tenait dans ses mains. Il disait simplement qu'il mourrait volontairement pour ceux qui cherchaient à le tuer. Jésus, non seulement il a prêché que nous devrions aimer nos ennemis, mais il a démontré qu'il aimait ses ennemis. Ensuite, on voit qu'il a pris du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. » Le Seigneur Jésus a pris du pain. Tout d'abord, il en a rendu grâce. Il a remercié le Seigneur, remercié Dieu pour ce pain. Puisque le pain était typique de son corps, il remerciait Dieu d'avoir reçu un corps humain dans lequel il pourrait venir et mourir pour le péché du monde. Nous trouvons ce passage en Hébreux 10, versets 5 à 7. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. » Alors j'ai dit, « Voici, je viens. Dans le rouleau de livre, il est question de moi. » Pour faire au Dieu ta volonté. En Ézéchiel 18, 20, nous lisons, « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. » L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et personne ne peut porter le péché d'un autre. Et l'âme qui pêche mourra. Mais Isaïe dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Quel contraste. La parole, Ézéchias, il dit que l'âme qui pêche mourra. Donc chacun devrait porter ses péchés, il devrait mourir pour ses péchés. Mais l'Éternel, il a fait tomber nos péchés sur lui. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a pris la forme d'un pécheur à tout égard. Quand nous lisons qu'il a pris un corps humain pour mourir sur la croix, en tant que pécheur, nous tenons probablement pour acquis le fait que Jésus a pris un corps humain pour naître dans ce corps humain, pour vivre avec un corps humain et mourir comme un pécheur avec un corps humain. Non! Il n'était pas normal que la nature divine porte le corps humain. Est-ce que nous comprenons ça? Imaginez Dieu qui porte le corps humain. Comme si que vous êtes prêt à renaître comme une fourmi, une vermine, pour faire quelque chose. Il n'était pas normal que la nature divine porte le corps humain. Dieu devait préparer le Fils un corps. Jésus n'est pas acquis un corps comme cela. Mais la parole nous dit, mais tu m'as formé encore. Mais tu m'as formé encore. Quand le Sauveur a dit, ceci est mon corps, voulait-il dire que le pain est réellement devenu son corps? Dans un sens réel? le dogme catholique romain de la transsubstantiation insiste que le fait que le pain et le vin sont littéralement changés en corps et en sang de Christ. Quand il participe dans la communion, dans l'Eucharist, le pain et le vin se changent littéralement en corps et en sang de Christ. La doctrine luthérienne et anglicaine de la consubstantiation enseigne que le vrai corps et le vrai sang de Christ sont dans, avec et sous le pain et le vin sous la table. Lequel est vrai? En réponse à ces points de vue, il devrait suffire de se rappeler que lorsque le Seigneur Jésus a institué ce mémorial, son corps n'avait pas encore été donné et son sang n'avait pas encore été versé. Il était encore vivant avec eux. Comment il peut dire que manger mon corps, manger ma chair? Mais pourtant, Jésus l'a dit à ses disciples et beaucoup ils sont, c'était affreux pour eux pour entendre. Ils ont dit que c'est très dur d'entendre ces paroles. Et ils sont quittés. Et c'est plus tard qu'ils ont compris qu'est-ce que ça veut dire. Quand le Seigneur Jésus a dit « Ceci est mon corps », il voulait dire « Ceci est symbolique de mon corps. » Ou « C'est une image de mon corps qui est brisée pour vous. » Nous avons le pain et le jus de raisin devant nous qui ne sont que des symboles. C'est exactement ce que Jésus voulait dire. Si je vous montrais ma photo, vous imaginez que c'est ma photo ici, et que je vous disais qu'il est Jean-Pierre. Jean-Pierre n'est pas ici sur la photo. C'est moi le Jean-Pierre. Je suis là. Et ce n'est qu'une photo de moi. La photo reste une photo. Quand Jésus a dit « Je suis la porte », cela ne signifie pas que Jésus est une porte. Les symboles doivent être traités comme des symboles, mais ils sont utilisés pour enseigner une vérité profonde. Faites ceci en mémoire de moi. Nous voyons que le Seigneur Jésus a insisté pour que ses disciples observent ces choses dans son souvenir. Nous voyons cela répété dans ces versets, dans le passage, le 24, verset 24 jusqu'à 26. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe, il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. C'est-à-dire, chaque fois que vous buvez cette coupe, vous devrez penser à moi. Vous devrez faire en mémoire de moi. Et encore dans le verset 26, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, c'est tout ce qu'on fait, on parle de lui, on se souvient de lui. Ce n'est pas le moment de vous souvenir de tous vos péchés passés. Quand nous sommes devant la table, c'est pas nous n'allons pas penser à notre propre péché, notre faillite, notre misère. Ce n'est pas le moment pour penser à notre passé. Pourquoi? Le Seigneur dit qu'il ne se souviendra plus de nos péchés. Ce n'est pas qu'il ne s'en souvient pas. S'il en était ainsi, ce serait une faiblesse de son caractère. Moi, je dis souvent, ma femme, elle me dit souvent que tu oublies beaucoup de choses maintenant, tu oublies beaucoup de choses. Et ça, c'est ma faiblesse. Si je n'arrive pas à me souvenir de rappeler les choses, je prends l'âge, donc c'est normal, le petit cerveau que j'ai, il ne peut pas garder tout en mémoire. Le disque, il est plein. Mais il choisit de ne pas se souvenir. Quand le Seigneur dit que je ne me souviens plus, c'est un choix qu'il fait que je ne souviendrai plus tes péchés. Mais il choisit de ne pas se souvenir. C'est moi Moi qui efface tes transgressions, pour l'amour de moi, je ne me souviendrai plus de tes péchés. Isaïe 43, 25. Nous sommes des pécheurs pardonnés. Ce n'est pas une excuse, bien sûr, de continuer dans le péché. Mais quand même, nous sommes des pécheurs pardonnés. Sinon, nous ne pouvons pas être là. Nous ne pouvons pas être là. Nous ne nous tenons pas autour de cette table sur la base de ce que nous sommes, mais sur la base de ce qu'il est et sur la base de ce qu'il a fait. Quand nous approchons de la table, ce n'est pas notre, pas notre propre mérite que nous approchons de cette table. Nous n'avons aucun. Mais seulement par le mérite que ce que Christ il est. Par la grâce de Dieu que nous sommes ce que nous sommes. Et sur la base de ce qu'il a fait, remontez dans le temps jusqu'à ce premier repas du Seigneur. Quelques instants avant que Christ ne soit trahi, arrêté, battu, moqué, fouetté et crucifié, rassembla ses disciples au dernier repas. Mais qui étaient ces douze qui étaient autour de lui? Il y en a un qui a renié le Seigneur, il y en a l'autre qui a trahi. Des autres, il n'était même pas là quand il était maltraité. Mais il était assis au milieu d'eux. Sachant très bien que c'est pour eux qu'il est en train de donner sa vie. Mais ce n'était pas un repas normal. C'était un repas profond, significatif et sacré. Ce qui est intéressant à propos de l'institution de ce repas, c'est qu'il remplaçait un autre repas profond, significatif et sacré que les Juifs observaient, c'est le Pascha. C'est le fait de Pascha, ce que le Seigneur il a ordonné à observer en Exode 12, chapitre 12. Après le pain était le vin, il a pris la coupe. Ce qui est intéressant à propos de cette institution de ce repas, c'est qu'il a remplacé un autre repas profond, significatif et sacré que le Juif observait. Il savait très bien ce que le repas de Pascha était. Ce repas s'appelait Pâques, un repas que le Juif partageait pour célébrer leur délivrance de l'esclavage égyptien. Donc c'est une fête annuelle qu'il faisait sans faute. De bons juifs, ils devraient faire ce repas ensemble. Et peut-être qu'ils ont oublié son signification. Peut-être qu'ils ont oublié la profondeur de cette vérité. Peut-être qu'ils sont en train de faire superficiellement parce qu'il y a un commandement de Dieu pour faire cette commémoration. Ils ont peut-être oublié leur temps d'esclavage de 400 ans en Égypte. Au repas avec ses disciples, Jésus a commencé par rompre le pain et parler de la façon dont c'était son corps donné pour eux. Et maintenant, le même jour de Pâques, le Seigneur il est assis avec eux, en train de prendre le repas avec eux. Et à la fin du repas, il prend le pain, il brise le pain, il donne à ses disciples, dire que ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Les Juifs, ils attendent le Messie pour la délivrance. Et le premier Pâques, à la sortie de en Égypte, quand il prenait le premier Pâques, et à la sortie d'Égypte, quand ils ont pris le premier Pâques, le repas de Pâques, et ils savaient que le sang d'agneau qui va le délivrer de colère de Dieu. Et après, nous voyons Jean-Baptiste, quand il voit Jésus venir dans le bord du fleuve Jourdain, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui porte le péché du monde. Et donc, c'était l'agneau de Dieu. Et maintenant, l'agneau de Dieu, qui est Jésus, qui est parmi eux, il prend le pain, il brise, il donne à ses disciples, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Il a pris La coupe est décrivée, cette coupe, comme la nouvelle alliance dans son sang, du sang versé pour tout le monde. Comme vous pouvez l'imaginer pour le disciple de Jésus, c'était un repas assez étrange. Mais ils ont l'habitude de prendre le Pâques. Mais cette fois aussi, c'était assez étrange. Cependant, cela prendrait tout son sens avec la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection entre les morts. C'est après qu'ils ont compris qu'est-ce que ça veut dire. Vous savez, les deux disciples sur la route d'Emmaüs, ils ont compris tout de suite que c'était Jésus quand il a pris le pain, quand il a brisé le pain, quand il a rompu le pain, ils ont compris que c'était Jésus. Et c'est là qu'ils sont souvenus ce que Jésus était en train de faire dans la chambre haute, quand il était avec les douze, avant sa mort et sa crucifixion. C'est alors qu'ils l'ont compris pourquoi Jésus a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». En conséquence, ils ont continué à observer le repas. En fait, dans 1 Corinthiens 11, Paul décrit comment l'Église primitive observait la scène du Seigneur. Il explique comment la pratique de la table du Seigneur proclame la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. L'institution de la table du Seigneur n'était pas censée d'être seulement un moment de rappel de la mort de Christ. Bien sûr, cela en fait partie, mais quand le peuple de Dieu observe la table du Seigneur se souvenant de la mort de Christ, il y a une célébration. Pour ce qu'il a fait, il y a une consécration pour ce qu'il fait en nous et à travers de nous maintenant. On célèbre parce que Jésus-Christ, il est mort pour nos péchés. Nous étions sans espoir, sans aucun sauveur, aucun moyen pour nous sauver de notre péché. Mais Jésus-Christ, il a pris notre péché sur lui. Il est mort sur la croix. C'est ça qu'on célèbre, nous célébrons. Et pas seulement ça. C'est une célébration et il y a aussi une consécration pour ce qu'il fait en nous et à travers de nous maintenant. Et il y a une anticipation de son retour. Parce que le Seigneur, il a dit, faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce qu'il vienne. C'est la merveille de se souvenir de la mort et de la résurrection de Christ à travers de la table du Seigneur avec les saints. Regardez les versets 25 de 1 Corinthiens 11. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Le verset 25 dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance dans mon sang. » Il emploie une figure de style dans laquelle le mot « coupe » est un métonymie. Ce qui signifie que la coupe représente ce qu'il contient, littéralement, le vin. On ne peut pas manger la coupe, on ne peut pas boire la coupe. Ce qui signifie que la coupe représente ce qu'elle contient, littéralement, du vin. Et peut-être vous avez posé la question, dans les autres églises, on fait différemment parfois. Si vous avez une question sur la raison pour laquelle nous ne servons pas le vin tel qu'il est dit dans la Bible, premièrement, le vin des temps bibliques n'était pas le même qu'aujourd'hui. Et deuxièmement, dans une église, nous pouvons avoir quelqu'un qui a été un esclave de l'alcool. Et nous estimons que ce moment solennel ne devrait pas être un moment de tentation pour les faibles. C'est simple à ça. Je ferme la parenthèse. Le vin symbolisait son sang. Ainsi, cette coupe est la nouvelle alliance dans mon sang. Une alliance est un accord un contrat entre deux parties. C'est un dispositif pour amener les gens dans une relation contraignante. Cette alliance particulière est inhabituelle et ce sens qu'elle est dans son sang. Le commentateur de la Bible, William Barclay, le paraphrase ainsi, « Cette alliance m'a coûté la vie. » Quand Jésus dit ceci, cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance. Et comme si le Seigneur il dit, cette alliance m'a coûté la vie. Cet accord, la nouvelle alliance, est fait au prix de la vie la plus précieuse et la plus chère qui ait jamais vécue sur la surface de la terre, celle de notre Créateur sans péché. Cela n'est pas venu à bon marché. Car l'âme de toute chair, c'est son sang. Nous lisons en Lévitique 17, 14. Le don de cette vie spécifique par son sang versé a rendu possible l'établissement d'une relation d'alliance avec Dieu. Cette relation est le fruit de la vie sans péché du Christ et de sa mort subséquente. Nous pouvons considérer que le fait que Christ ait rendu cette relation possible est l'accomplissement le plus important de tout ce qu'il a fait par sa mort. La nouvelle alliance, donc Jésus a parlé, contraste avec l'ancienne alliance, l'accord conditionnel que Dieu avait conclu avec les Israélites par l'intermédiaire de Moïse. L'ancienne alliance a établi des lois et des cérémonies qui séparaient des Juifs des autres nations, définissaient les péchés et mettaient en valeur la disposition de Dieu pour le pardon par le sacrifice. La nouvelle alliance a été prédite dans Jérémie 31. Si vous voulez, vous pouvez tourner avec moi. Jérémie 31, on va lire à partir du verset 31. Jérémie 31, 31. Donc, c'était déjà prévu par Dieu. La nouvelle alliance a été prédite dans ce livre de l'Ancien Testament, Jérémie 31, verset 31. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils l'ont violée. Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel, mais voici l'alliance que je ferai avec la nation, avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est ça la nouvelle alliance que Dieu a déclarée. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. L'ancienne alliance, principalement, se continuant avec les 10 commandements qui étaient écrits sur une tablette et qui étaient brisés, qui étaient désobéis. Mais maintenant, le Seigneur dit que j'écrirai dans leur cœur. L'ancienne alliance exigeait des sacrifices de sang, mais elle ne pouvait pas fournir un sacrifice final pour le péché. L'ancienne alliance exigeait des sacrifices répétés au quotidien d'animaux pour rappeler le péché du peuple. Mais comme le dit l'Écriture, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Hébreux 10, 4. Sous l'ancienne alliance, le même sacrifice inadéquat se répétait constamment. Pour chaque péché, le processus a été reproduit jour après jour, mois après mois, année après année. L'ancienne alliance n'a jamais prévu un sacrifice complet pour le péché. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de remplacer par une seconde, dit Hébreux 8, 7. Jésus est venu établir une alliance plus excellente, une nouvelle alliance. Donc Jésus a dit qu'elle était dans son sang. Jésus a versé son sang sur la croix pour enlever le péché du monde et ratifier la nouvelle alliance entre Dieu et l'homme. La nuit où il a été trahi, Jésus a pris la coupe et a dit à ses disciples, « Buvez en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Rendons compte de ce que le Seigneur il a fait dans la nuit même, quand il sera livré par son propre peuple pour lequel il est venu donner sa vie. Il prend la coupe, il dit, voici la coupe de la nouvelle alliance. Parce que Jésus est le saint agneau de Dieu. Son sacrifice unique est suffisant pour expier les péchés de tous ceux qui croient en lui. Nous prenons part à Jésus en venant à lui avec foi. Mais souvenez-vous ce que Jean 1,12 dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Confiant que son sang versé, son corps brisé, est suffisant pour payer pour nos péchés, l'élément de pain et du vin commémore sa mort et l'effusion de son sang. Lorsque nous mangeons ces éléments en communion avec des autres croyants, nous affirmons notre foi et notre communion en Christ. On peut faire beaucoup de choses. On peut lire la Bible chez vous. On peut prier séparément. Mais cette communion fraternelle que nous avons, rompre le pain avec son église, avec son peuple, ce n'est pas possible. Vous vous souvenez, il y a 3 ans, on était tous isolés par le confinement à cause de Covid. Ça nous a manqué, cette communion fraternelle, la table du Seigneur. Et nous allons conclure avec quelques points. Et donc, quand nous célébrons la table du Seigneur, premièrement, nous nous souvenons de Jésus. Nous ne nous souvenons pas de notre propre péché, notre faillite, notre incapacité, notre mérite, notre fierté ou quoi que ce soit. Ce n'est pas moi, mais Jésus-Christ qui est tout pour moi. Nous nous souvenons de Jésus. La table du Seigneur est tout au sujet de Jésus. Pour vraiment se souvenir de quelqu'un correctement, vous avez dû connaître cette personne. On ne peut pas se souvenir de quelqu'un sans connaître la personne. Mais on peut aller au cimetière de quelqu'un avec qui on a eu une relation. On peut aller recueillir dans ce cimetière pour penser à cette personne. Parce que ça nous rappelle beaucoup de choses, sa vie, sa mort, notre relation avec la personne, notre communion avec la personne. Pour vraiment se souvenir de quelqu'un correctement, vous avez dû connaître personne. Il en est de même avec la scène avec la table du Seigneur. Nous nous souvenons de qui il est en tant que Fils éternel de Dieu. Nous nous souvenons de ce qu'il a fait, sa venue dans ce monde, prenant notre nature humaine. Nous nous souvenons de son merveilleux enseignement et de sa vie parfaite. Nous nous souvenons de ce qu'il a souffert à notre place sur la croix, et de ce qu'il a accompli pour nous, personnellement. Nous nous souvenons de sa mort et de sa résurrection. Nous nous souvenons de toutes ces choses lors de la table du Seigneur. Quand nous participons à la table du Seigneur, nous nous souvenons de toutes ces choses. Deuxièmement, nous obéissons à Jésus-Christ. C'est un ordre, n'est-ce pas? Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Chaque fois que vous réunissez, faites ceci en mémoire de moi. Nous obéissons à Jésus. Faites ceci en mémoire de moi. C'est un ordre, c'est un commandement qui vient d'un cœur d'amour et notre réponse obéissante vient d'un cœur d'amour aussi. Le Seigneur le dit, si tu m'aimes, garde mes commandements. Et Pierre l'a dit, je t'aime. C'est facile à dire quand la personne il est là pour dire je t'aime. Quand la personne il n'est pas là. Et est-ce que nous aimons? Et si nous aimons, est-ce que nous montrons notre obéissance à notre maître, à notre Seigneur? C'est vraiment le moins que nous puissions faire pour Jésus quand nous réfléchissons à ce qu'il a fait pour nous. Troisièmement, et en participant à cette table, nous démontrons notre communion avec Jésus-Christ. Dans l'Apocalypse, on nous raconte comment Jésus se tient à la porte et frappe. Et quiconque entend et ouvre la porte, Jésus dit, je viendrai à lui et je souperai avec lui et lui avec moi. La communion, c'est exactement cela. Manger avec quelqu'un, je pense que en Algérie, on dit on casse la croûte. Non, on mange le sel ou quelque chose comme ça. Hein? Et pas avec n'importe qui on peut manger. Hein? On peut s'asseoir ici, on devrait asseoir pour manger avec quelqu'un. On devrait avoir une certaine communion avec la personne. On n'a pas envie de manger avec quelqu'un qu'on n'apprécie pas, n'est-ce pas? Donc, et le Seigneur lui-même dit, je viendrai, voici, je tiens la porte et frappe. Et quelqu'un entend et ouvre la porte, Jésus dit, je viendrai à lui et manger avec lui et lui avec moi. Cela devient une partie intégrante de ce qui se passe à la table alors que nous jouissons de l'amitié, de la communion et la communion avec Jésus. Et nous communiquons son amour par l'Esprit. Nous communions aussi avec tous les autres chrétiens autour de la table. Nous ne sommes pas seuls avec le Seigneur. Et vous savez, quand le disciple il était avec Jésus-Christ, je pense qu'il devrait avoir des pensées hautaines parfois. On savait qu'une mère qui vient et dit que « Seigneur, donne-moi cette bénédiction de faire asseoir mes fils un côté droit, l'autre à l'autre côté. » Et donc, il pensait certainement les choses comme ça. Mais maintenant, nous qui avons plus de révélations, quelle mentalité nous avons quand nous venons autour de cette table? Nous ne sommes pas seuls. Je ne peux pas s'asseoir comme des pharisiens qui disent que je ne suis pas comme l'autre. Mais on devrait avoir le cœur de cet homme qui a dit que « Seigneur, je suis un misérable pécheur. Pardonne-moi. » Nous sommes tous une famille car nous partageons et passons et prenons quand participons dans cette table. Nous nous souvenons que Jésus aimait tellement la personne à côté de moi et derrière moi et à ma côté et qu'il a donné sa vie pour eux aussi. Jésus n'est pas venu dans ce monde pour me sauver uniquement moi ou ma famille. Jésus est venu pour sauver chacun de nous présents ici. N'oublions pas que ce que Jésus dit à Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Vous savez, les gens de ville, ils sont parlé, oh, il va aller manger avec une telle personne. C'est un pécheur. Mais Jésus dit, Zachée, hâte-toi et descendre. Car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. C'est la même invitation que le Seigneur le donne à chacun d'entre nous ce matin. Et quatrièmement, nous remercions le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Vous voulez instinctivement remercier quelqu'un qui a fait quelque chose de merveilleux pour vous ou qui vous a fait un cadeau incroyable. C'est exactement ainsi que les choses se passent avec nous à la table du Seigneur. Dieu nous a donné un don de la vie éternelle par son Fils. Le Fils a donné sa vie pour nous sauver. L'action de grâce fait donc partie intégrante du table du Seigneur. Avec quel cœur nous approchons de la table? Le Seigneur, il a guéri 10 lépreux. Et il y a un seul qui est venu vers lui. Il demande, où sont les 9 autres? Avec quel cœur nous approchons de cette table, un cœur débordant de reconnaissance. Et cinquièmement, nous témoignons pour Jésus en participant à la table. Prendre le pain et le vin, c'est faire une déclaration puissante. C'est même une prédication. Et chacun, on fait une prédication de cet merveilleux évangile, de bonne nouvelle. On nous dit, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Comme Paul, il dit, je sais que Jésus-Christ, il est mort pour moi. Il m'a donné la vie éternelle. Et c'est ça que nous annonçons quand nous participons à la table. Chaque fois que vous vous asseyez à la table, vous dites, en étant Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur, eh bien, chaque personne qui va à la table fait une déclaration puissante. En effet, c'est une raison très puissante pour laquelle chaque chrétien devrait être à la table. Et bien sûr, nous devrions sonder nos cœurs avant de participer. Mais combien de temps vous allez abstenir et vivre dans le péché? N'y allant pas, une personne cache ce que Christ a fait pour elle. Si nous ne participons pas à la table, nous cachons ce que Jésus-Christ il a fait pour cette personne. Mais si la personne, elle est bien sûr, a reçu le pardon de Jésus. Vous savez, dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode, il est écrit, si ton fils le demande, pourquoi vous faites ceci? Quand il devrait fêter la Pâque, tu expliqueras pourquoi tu fais. Et nous devons un devoir pour expliquer pourquoi nous faisons, pourquoi nous participons, pourquoi nous célébrons la table du Seigneur. Et sixièmement, nous attendons Jésus. Le jour vient où nous ne verrons pas Jésus à travers de ces symboles de pain et du vin avec l'œil de la foi, mais le verrons tel qu'il est. Lorsque nous mangeons et buvons du table du Seigneur, nous rappelons que c'est jusqu'à ce qu'il vienne. Chaque fois que nous prenons part à la table du Seigneur, cela nous rapproche un peu plus du retour du Seigneur. Et l'Église continuera à célébrer la scène du Seigneur jusqu'à son retour. Ainsi, lorsque nous asseyons à la table, nous regardons en arrière ce que Christ a fait pour nous et nous attendons, en regardant en avant, nous attendons avec impatience son retour. La table du Seigneur est un privilège incroyable pour chaque chrétien et aussi un rappel puissant de ce que Dieu a fait pour nous. En réfléchissant à ce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont fait pour nous et continuons de faire pour vous et en nous, nous pouvons envisager l'avenir avec anticipation. Oui, l'avenir est incertain, mais c'est l'avenir de Dieu et nous savons qu'il va ramener chacun de son peuple chez lui au ciel. Entre-temps, il nous a donné ses bénédictions pour fortifier notre foi et nous encourager mutuellement. Que le Seigneur bénisse sa parole. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ces symboles que tu nous as laissés. Seigneur, ces symboles qui sont en train de parler puissamment de la vérité que tu veux que nous comprenions. Seigneur, nous reconnaissons notre état. Seigneur, nous sommes des misérables pécheurs, mais des pécheurs pardonnés. Mais tu veux que nous vivions une vie séparée du monde et consacrée à toi. Seigneur, nous n'avons pas cette capacité de vivre, mais merci pour le Saint-Esprit qui tu nous as donné, Seigneur, qui nous rend capables. Seigneur, aide-nous à chercher cette sainteté qui est en Jésus-Christ. Seigneur, tu étais un exemple pour nous. Seigneur, tu étais dans la chair, tu étais dans la forme humaine, Seigneur, mais tu as vécu sans péché. Seigneur, nous te bénissons pour cet symbole que tu nous as laissé. Seigneur, aide-nous à penser à ta mort, ta résurrection et ton avènement. Seigneur, nous te remercions, Père, pour tout ce qui est pour nous et pour tout ce que tu as fait pour nous. Dans le bon nom de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, nous prions et pour ta seule gloire. Amen.